Fidélité. Nous recevons ce dimanche professeur Mamoudou Diouf. Bonjour Mamoudou Diouf.
Bonjour.
Vous êtes présentement à Paris, en France. Mamoudou Diouf, vous êtes professeur d'histoire des universités, professeur à Columbia University aux États-Unis. Professeur Diouf, vous êtes historien sénégalais, docteur de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en 1981. Professeur à l'Université Cheikhanta Diop de Dakar, département d'histoire au Sénégal, puis professeur invité au département d'histoire de l'Université de Michigan aux États-Unis. Pour l'année académique 99-2000, vous y avez été recruté jusqu'au 1er juillet 2007. Le 7 décembre 2006, Mamoudou Diouf, vous êtes nommé directeur de l'Institut d'études africaines, un département de l'École des affaires internationales de l'Université de Columbia aux États-Unis que vous rejoindrez en juillet 2007. De 91 à 99, directeur du département de recherche et de documentation du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA. Enfin, Mamoudou Diouf, vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'histoire coloniale du Sénégal et sur les transitions démocratiques en Afrique. Nous allons parler du Sénégal d'abord. Aux yeux de l'historien que vous êtes, Mamoudou Diouf, l'histoire qui s'écrit dans notre pays depuis le 23 juin 2011, jour du rejet populaire suivi du retrait du projet de réforme constitutionnelle portant l'élection d'un ticket président-vice-président, cette histoire a-t-elle quelque chose d'inédit aux yeux de l'historien que vous êtes ?
En fait, c'est pas quelque chose d'inédit. Il est important de comprendre que les sociétés humaines, les sociétés africaines réagissent dans le temps long et accumulent des ressources. Et ce sont ces ressources-là qu'elles mettent en œuvre dans des conditions particulières. Dans le cas du Sénégal, en particulier à ce moment précis, c'est-à-dire le 23 juin, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est un autre chapitre de cette histoire politique sénégalaise qui est une histoire qui déroule un approfondissement, disons, de l'expérience démocratique. Donc, le 23 juin, c'est, si vous voulez, un nouveau tournant qui est un tournant imprimé à la vie politique sénégalaise, mais dont le repère principal est l'alternance de 2000 et l'histoire et les péripéties de cette alternance. Parce que ce qu'on voit, c'est, si vous voulez, très rapidement, entre 88 et 2000, un mouvement porté par des jeunes qui approfondit l'expérience démocratique et met en place, par des luttes précises, une administration des élections, une mobilisation qui permet à Wade et à ses alliés de gagner. Et cette victoire était porteuse de promesses qui ont été trahies. Trahi parce qu'il n'y a pas d'emploi des jeunes, trahi parce qu'il y a une corruption de plus en plus importante, trahi parce que la plupart des alliés sont sortis de la coalition, trahi parce qu'il y a eu l'arrivée des transhumants. Donc, cette situation a entraîné une démobilisation, si vous voulez, de la jeunesse en particulier. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une remobilisation. Et cette remobilisation signe deux choses. La mise en congé de Wade et de son programme, y compris ce que les gens appellent la dévolution monarchique. Et la deuxième chose, elle somme l'opposition de se réorganiser. Elle est en train de faire des tris dans cette opposition pour effectivement repenser, si vous voulez, de nouvelles modalités de la politique. Donc c'est un moment important qui n'interroge pas seulement, contrairement à ce qu'on croit, le pouvoir de Wade et le PDS, mais qui interroge aussi Benno et qui interroge aussi la société civile sénégalaise.
Mmh. Vous dites mise en congé du président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est la mise en congé de son projet et de son projet doublement. Si vous écoutez le discours de Wade et si vous écoutez une partie de son opposition, vous vous rendez compte d'une chose extraordinaire. C'est l'idée qui est une idée assez étonnante en fait, que le président de la République doit se préoccuper de son successeur, qui doit décider, si vous voulez, de qui doit être son successeur, ce qui est complètement antidémocratique. Et c'est là, en fait, un projet qui est le projet de Wade qui se projette, si vous voulez, et prend comme référence Senghor. Wade est tellement obsédé par Senghor qu'il pense qu'il peut non seulement recopier et imiter Senghor, son théâtre, le Festival mondial des arts nègres, etc., la succession, par exemple, il renvoie toujours à l'article 35, ce qui n'a rien à voir, parce que les conditions sont différentes. Mais aussi, c'est parce que, en fait, le projet de Wade est, vous les Sénégalais, les infrastructures que j'ai mises en place, les socialistes ne les ont pas mises en place pendant 40 ans. J'ai fait des études, comme s'il n'y avait pas de Sénégalais ayant fait des études, donc je dois vous diriger. J'ai plus d'idées que vous. Aujourd'hui, ce que les Sénégalais sont en train de dire à Wade, c'est que, un, les références, y compris les références senghoriennes, n'ont pas de valeur pour nous. Deux, ce qui s'est passé avec l'article 35 est différent de sa dévolution monarchique du pouvoir, qu'on le veuille ou non. Et les Sénégalais étaient contre l'article 35, y compris lui-même. Et ça, les gens ne lui rappellent pas. Et trois, les Sénégalais sont en train de dire, c'est à eux de décider qui va être leur président. Ce n'est pas un président qu'ils ont élu de décider qui va être son successeur. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, certains politiciens sénégalais se battent contre la dévolution monarchique du pouvoir, mais ne remettent pas en cause l'idée la plus importante et qu'il faut remettre en cause, que les jeunes sont en train de remettre en cause, c'est même l'idée de la succession et de la capacité ou du droit du président à dire « moi, je vais m'occuper de mon successeur ». Ça, ça n'a aucun sens. Et quand on entend Wade dire « après moi, le chaos », c'est exactement cela. Je vous dis, c'est comme s'il n'y avait pas de Sénégalais, même avant lui, qui ait fait de la politique et des gens qui ont été à des positions politiques plus importantes que lui.
Justement, il a dit « mon départ maintenant du pouvoir créerait un chaos pire qu'en Côte d'Ivoire ». Ça, il l'a dit. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'alerte aussi qu'il est en train de lancer à l'endroit de ceux qui veulent prendre sa place en disant « ben faites attention, sinon ce sera le déluge ».
La première chose qu'il faut dire, c'est que comparaison n'est pas raison. Et ça démontre une chose assez étonnante, c'est en fait l'ignorance du président Wade et de la société sénégalaise et de la société ivoirienne. La trajectoire de ces deux pays, la composition ethnique de ces deux pays sont très, très différentes. Ce que Wade nie, c'est que l'armée sénégalaise est totalement différente de l'armée ivoirienne. Ça, c'est la première chose qui est importante. Et cette armée sénégalaise a produit des officiers supérieurs qui sont à la retraite, dont plusieurs sont effectivement partie prenante de ce qui se passe et qui porte une histoire, l'histoire de cette armée qui n'est jamais intervenue dans la vie politique, mais qui est capable, à des moments précis de crise, d'imposer à la classe politique, en fait, une démarche précise. Deuxième différence, c'est l'extraordinaire importance de ce qu'on pourrait appeler la classe maraboutique sénégalaise, qui a constamment joué un rôle important. Et encore une aujourd'hui, ce qui le montre, c'est le retour dans l'espace public sénégalais de l'Hadji Abdoulaziz Sy et du discours de conciliation et de paix, mais qui est un discours aussi qui dit que le géopolitique doit être organisé de la manière la plus rationnelle et la plus juste possible. C'est vrai que beaucoup de marabouts aujourd'hui ont trempé dans, si vous voulez, les différentes combines politiques et ont perdu dans une très large mesure leur position d'intercesseur. Mais il y a encore des marabouts, notamment de très très jeunes marabouts, aussi bien chez les Mourides, chez les Tidianes que chez les Layens, qui sont en train de proposer une nouvelle démarche. Et cette nouvelle démarche est effectivement une démarche qui est consistante avec le rôle d'intercesseur et d'un groupe qui détient une certaine légitimité et qui a toujours été capable depuis l'indépendance.
Mais donc, en même temps, c'est vrai que c'est ça qui est étonnant, puisque vous parlez de Marabout. Dans son discours samedi sur la VDN, le président a commencé par remercier tous les khalifs généraux de ce pays, mais aussi le cardinal Théodore Adrien Sarr. Et ce n'est pas une façon de dire aussi, contrairement à ce que vous croyez, peut-être que les chefs religieux auront leur mot à dire lors de cette prochaine élection présidentielle.
Non, mais c'est-à-dire il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Les chefs religieux ont leur mot à dire, mais les chefs religieux ont toujours oscillé entre une position qui est une position d'intercesseur, de pouvoir équidistant des différents acteurs, Mais on oublie souvent une chose, c'est que le marabout a un pouvoir sur le talibé, mais son pouvoir sur le talibé est conditionnel. Le talibé peut changer de marabout. Et ça, on l'a vu. On a vu les marabouts donner un ligueul et les talibés faire autre chose. On peut changer de marabout, ça, les Sénégalais ne se rendent pas compte souvent de ça. Et que le marabout est conscient de ça. Donc, qu'il soit proche du gouvernement ou non, pour toutes les raisons que l'on veut, en cas de crise, le choix qu'ils ont est un choix beaucoup plus compliqué qu'un choix purement de soutien au président de la République ou à son parti. Donc, il est très clair que, comme je disais tout à l'heure, même si effectivement le jeu maraboutique dans l'espace politique sénégalais est très très compliqué, ce jeu n'est pas, ils ne sont pas captifs du président Wade, même si le président effectivement est obligé de chanter leur louange et de les célébrer parce qu'il a besoin de les mettre de son côté.
Et votre pronostic, ce serait quoi en 2012? Est-ce que vous pensez que ce pouvoir maraboutique sera déterminant en 2012?
Non. Je répète encore une fois, parce que le pouvoir que les marabouts ont sur les talibés est un pouvoir conditionnel, parce que, en particulier, depuis 1988, ce à quoi on a assisté, c'est à, si vous voulez, à une espèce de localisation du pouvoir maraboutique dans l'espace religieux. C'est-à-dire le marabout, le type de ndigueul qu'on avait dans les années 1988, on ne peut plus les avoir. Si vous vous rappelez des deux dernières élections présidentielles, 2000 et 2007, il n'y a pas eu de ndigueul. Donc le ndigueul s'est dans une certaine mesure épuisé ou s'est transformé en autre chose, se manifeste différemment. Mais ce que je disais, c'est que dans l'élection proprement dite aujourd'hui, il y a une telle diversité dans les confréries que les marabouts n'ont plus intérêt eux-mêmes à prendre une position tranchée. Eux aussi, à cause de la diversification de l'offre politique, sont obligés de négocier. De négocier avec les talibés, de négocier avec le pouvoir, de négocier avec l'opposition. Donc, ils ne vont pas, le pouvoir maraboutique ne va pas soutenir Wade ou soutenir les partis d'opposition. Ils vont prendre une position équidistante parce qu'ils voient aussi que la majorité des Sénégalais ne semble pas accepter, disons, la direction que le pays prend. Par contre, en cas de crise, et ça on le voit, en cas de crise, ils sont forcés de rentrer dans le jeu. Parce que c'est aussi leur avenir qui est en jeu quand le pays est en crise. Donc les marabouts, l'armée, la police ne vont pas nécessairement voir la situation se dégrader. Oui. Et vont forcer les politiciens à trouver une solution.
Ce qui se passe justement, c'est que le président Wade dit qu'il sera candidat, même s'il a eu à faire des déclarations antérieures qui vont dans le sens contraire. L'allusion à la Côte d'Ivoire, justement, à Mamadou Diouf, est-ce que ça ne nous renvoie pas un peu à Oufouet Boigny? Est-ce que ce n'est pas que Wade quitterait le pouvoir à un certain âge, presque le même âge que Oufouet Boigny, même s'il n'aura pas peut-être fait autant d'années qu'Oufouet Boigny au pouvoir? Est-ce que l'allusion aussi à la Côte d'Ivoire ne fait pas penser à Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux?
Et bien sûr, il faut prendre très très au sérieux, parce que c'est une espèce de menace et un mépris profond, en fait, et un refus de prendre en considération la capacité des Sénégalais et de beaucoup de Sénégalais, de millions de Sénégalais probablement, à pouvoir diriger le Sénégal d'une part, et d'autre part, c'est très très consistant avec son idée. Il l'a répété dans son interview à La Croix, qu'effectivement, c'est lui et après lui, c'est son fils si
Absolument.
On veut sauver le Sénégal.
Oui, et c'est-à-dire, il l'a présenté comme étant le plus intelligent en matière économique et financière.
Bien sûr, ce qui est très facile. Mon père ferait la même chose pour moi. C'est malheureusement ça dont je ne me rends pas compte. C'est purement le père qui parle, ce n'est pas la personne objective. Votre père dirait la même chose que Mamadou Ibrahim est le meilleur journaliste sénégalais, pourquoi pas. Et c'est ça qui montre la limite de ce qu'il dit. Mais c'est ça aussi qui montre l'absurdité de ce qu'il dit. En disant que le Sénégal, que personne ne peut le remplacer sauf son fils, d'une part, d'autre part, si je meurs. Mais en 80, les gens pensaient que si Senghor partait, la chose s'effondrait. Il y a des Sénégalais qui ont pensé que Diouf part, le pays s'effondre. C'est ça, si vous voulez, c'est une image rhétorique Mais lui, malheureusement, il le prend au sérieux. Et c'est vrai que, disons, la comparaison avec Houphouët-Boigny est intéressante pour une raison. Mais vous savez, c'est ce qui arrive à nous tous, à nos grands-pères, ils vivaient, à nos pères en vieillissant, et nous probablement en vieillissant. Cette idée qu'on... Vous savez, on quitte difficilement ce monde-ci. On accepte difficilement de partir. Et pour des gens qui ont eu, si vous voulez, des responsabilités aussi importantes, l'idée qu'ils vont partir et laisser d'autres gens prendre en charge devient complètement inacceptable. Et c'est pour ça que quelquefois, ils créent le chaos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'idée que l'État de survivre devient impossible, inacceptable.
Mais cette façon de s'accrocher au pouvoir, et même ce débat sur la dévolution monarchique au Sénégal, pays qui vote quand même, je parle sous le contrôle de l'historien, depuis au moins 2 siècles, est-ce que ça n'est pas la conséquence d'une patrimonialisation de l'État?
Mais bien sûr, non seulement c'est la conséquence, mais la chose la plus extraordinaire, c'est pour ça que, et là aussi c'est l'absurdité en fait, si vous voulez, du récit constamment repris par le président Ouad de Sénégal démocratique, etc., etc. Parce que la démocratie sénégalaise a reculé en 10 ans, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire les progrès qui ont été faits entre 88 et 2000 ont été effacés par le président Ouad et sa manière de gouverner. C'est-à-dire que si les Sénégalais font une pause et regardent un peu, ils se rendraient compte qu'ils sont aujourd'hui, avec cette discussion sur la dévolution monarchique du pouvoir, ils sont aujourd'hui au même niveau que le Gabon et le Togo. Et ça, c'est un recul du point de vue des institutions démocratiques, du point de vue de la culture démocratique et du point de vue de la pratique démocratique. On a reculé. Il y a une extraordinaire régression. Et le mouvement du 23 juin, c'est ça que le mouvement du 23 juin essaie effectivement de corriger. C'est pour ça que je disais que ce tournant est un nouveau tournant dans la construction démocratique à cause du recul, disons, subi, si vous voulez, par la démocratie sénégalaise. Et c'est vrai que c'est un extraordinaire recul que ce pays dans lequel en 2000 les Sénégalais disaient « celui pour lequel vous votez n'est pas présent sur la scène, il est derrière le candidat que vous voyez, vous votez pour quelqu'un que vous ne voyez pas ». On se retrouve maintenant avec un président qui n'essaie même pas de se trouver un successeur, mais qui essaie d'imposer son fils comme successeur. Et ça, quand il dit « j'ai jamais essayé de faire la dévolution monarchique », dans la même phrase, si vous lisez le même paragraphe, la réponse à sa question, c'est étonnant. Quand il dit « j'aimerais bien que mon fils soit président à maman ».
Oui, il l'a dit, mais en même temps, les autres qui ne sont pas ses fils ou ses filles continuent quand même à le soutenir. La preuve, ce samedi, tous ont dit « notre candidat, c'est le président Abdoulaye Wade ».
Mais c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, en fait, probablement si le président Wade faisait, disons, s'il est lui, je crois que j'ai lu une interview de Maître Doudounoï qui disait que lui aussi il va être candidat à la candidature au PDS et que c'est le congrès qui va décider. En fait, la chose la plus intéressante, c'est que probablement si le président Ouad est candidat à la candidature au PDS, il va passer. Mais ce serait intéressant justement de voir s'il pourrait se battre pour faire de son fils un candidat au PDS, parce que les gens qui sont contre son fils sont peut-être plus nombreux au PDS qu'ailleurs. Il n'y a pas eu un test de popularité ou de représentativité de son fils à l'intérieur du PDS pour pouvoir dire quelque chose. Et c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste, c'est un président qui cherche un subterfuge juridique pour faire passer un successeur. Et ce successeur, selon la rumeur, comme on dit, c'est son fils. Mais dans un deuxième cas, maintenant, son cas à l'intérieur du PDS est différent. Aujourd'hui, les gens qui, en fait, ont bénéficié très, très largement du pouvoir de l'alternance à l'intérieur du PDS, ces gens vont bien sûr soutenir le président Ouad, parce qu'ils n'ont pas un autre candidat, si vous voulez. Dans la mesure où, en fait, Idriss Seck a été défait à l'intérieur du PDS. Macky Sall a été défait à l'intérieur du PDS. Aminata Tall a été défait à l'intérieur du PDS. Effectivement, pour ceux qui restent et qui veulent préserver leurs intérêts, ils n'ont pas d'autre candidat que le président Wade.
Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce qu'on essaie de raisonner dans l'absolu. Puisqu'il y a un arbitre qui va se prononcer, c'est le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on prend cette hypothèse, quand si le Conseil constitutionnel invalidait cette candidature du président Blaye Wade?
Monsieur Kane, vous avez déjà la réponse. La réponse, c'est le mouvement du 23 juin et la manifestation qu'il y a eu aujourd'hui. Les Sénégalais vont encore sortir dans la rue. Et ça risque de très mal se passer. Et c'est pour ça qu'il faut que les acteurs politiques, il faut que les gens qui ont une influence politique, qui ne sont pas des acteurs politiques, puissent entrer dans le débat. Il faut que la société civile puisse entrer dans le débat. Parce qu'au-delà des arguties juridiques, le problème qui se pose est un problème très simple. Le président Abdoulaye, maître Abdoulaye Wade, a été l'opposant sénégalais de 74 à 2000. 74-2000, c'est 26 ans, si je ne me trompe. Il a été président pendant 12 ans. Il a 86 ans. La logique voudrait effectivement, comme Nelson Mandela, qu'il se retire, conserve cet extraordinaire capital historique qu'il a accumulé, d'avoir été un opposant rigoureux, consistant, d'avoir développé une stratégie pour arriver au pouvoir, d'avoir fait cette réalisation très importante en termes de renouvellement de la classe politique, en termes d'infrastructures, même si je ne suis pas d'accord avec, parce que l'argent mis dans les infrastructures était trop important et c'est concentré à Dakar. Mais c'est aussi l'échec de la mise en disponibilité de l'électricité, etc., etc. Mais le fait de partir lui permettrait effectivement de, si vous voulez, recapitaliser son avoir qu'il a complètement dépensé.
Alors, vous me permettrez de rappeler très rapidement aux éditeurs qu'ils suivent l'émission Le Grand Jury sur la RFM. Mamoudou Diouf, et si on prenait l'autre hypothèse, que sa candidature soit invalidée par le Conseil constitutionnel?
Mais si cette candidature est invalidée, je pense que ce qu'il devrait faire, et ce serait un autre geste pour recapitaliser son avoir historique, si vous voulez, c'est précisément de dire, ok, démocratiquement, j'accepte cette invalidation. En tant que président, je vais terminer mon mandat. Je vais m'assurer qu'on ait les élections les plus démocratiques, les plus transparentes, et je remettrai le pouvoir à celui que les Sénégalais vont élire comme président de la République.
Mais n'est-ce pas étonnant si l'enjeu pour lui, le président Wade et ceux qui le soutiennent, est qu'il entre dans l'histoire et qu'il y reste à l'image de Mandela, n'est-ce pas étonnant cette détermination à vouloir rempiler pour un troisième mandat présidentiel?
Non, ça demande une incapacité à comprendre le mouvement de l'histoire et à comprendre l'évolution du Sénégal. Vous savez, la population sénégalaise aujourd'hui, peut-être 60, je pense qu'un peu plus de 65% de la population a moins de 25 ans. Pourquoi voulez-vous, en fait, à 86 ans, continuer à les gouverner quand, quelquefois, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas dans leur demande? Et pourquoi, après avoir, comme je dis, été l'une des forces les plus importantes de l'opposition qui a aidé à construire un État démocratique. Pourquoi, après avoir assuré le pouvoir pendant 12 ans, avoir fait des choses importantes, mais aussi des choses, par exemple, une corruption aussi importante qu'on n'ait jamais vue au Sénégal, mais avoir fait des choses, et on peut reconnaître actuellement les réalisations du président Wade, on peut voir ses échecs aussi, mais après avoir fait tout ça, c'est vrai, c'est comme Senghor. Il est temps de se retirer. Mais vous savez la différence entre les chefs d'État africains. Pour moi, c'est que des gens comme Senghor, ils avaient autre chose à faire de leur vie. C'est-à-dire la présidence était un moment dans leur vie, mais n'était pas toute leur vie.
Et il disait qu'il était venu au pouvoir et dans la politique par accident.
Oui, mais plus que cela, c'est que Senghor pouvait faire quelque chose de sa vie après la présidence. Vous savez, il y a beaucoup de présidents africains, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Alpha Oumar Konera, c'est ce qu'il fait de sa vie.
Mais il faut peut-être les aider, ceux qui ne le comprennent pas. Il faut les aider, non ? D'autant plus que le président Ouad en parle souvent, les anciens chefs d'État, il faudra qu'ils aient un statut pour qu'ils ne s'accrochent pas coûte que coûte au pouvoir.
Est-ce que vous pouvez faire une comparaison ? Personne n'a jamais demandé, Mandela n'a jamais demandé un statut, il a un statut, parce que la manière dont il est parti, Senghor n'a rien demandé, il a un statut, il est parti. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait votre statut, c'est ce geste de grandeur qui fait que vous montrez que vous êtes devenu président parce que vous vouliez servir votre pays et non vous servir. Mandela est entré dans l'histoire avant d'être président, dans l'histoire de l'Afrique du Sud avant d'être président. Il est entré dans l'histoire de l'humanité à cause de la manière dont, devenu président de l'Afrique du Sud, il a géré l'Afrique du Sud et il est parti. Mandela est aujourd'hui l'un des hommes les plus... On ne pourra jamais parler du XXe siècle sans Mandela. Jamais. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait 27 ans en prison. C'est parce qu'il a fait 27 ans en prison qu'il est sorti, qu'il a assuré une transition pacifique de l'Afrique du Sud. Et au bout de 5 ans, il est parti en disant « Je veux vivre une autre partie de ma vie hors des contraintes de la présidence. »
Votre regard sur le processus de démocratisation au Sénégal, mais au-delà du Sénégal, au-delà du Sénégal en Afrique, ce serait de dire « Faites comme Mandela ».
Mais absolument, absolument. Faites comme Mandela, faites comme Kiet Massiré au Botswana. Il est parti aussi. Je vous dis que c'est ça, se mettre au service de son peuple et non se mettre au service de soi. Vous savez, être président de la République, c'est une fonction éprouvante, mais c'est aussi c'est une fonction qui demande toute la lucidité, qui demande toute la force. C'est pour ça qu'il faudrait aussi établir un âge où les gens... On a un âge pour être candidat, on devrait avoir un âge au-delà duquel on ne pourrait plus être candidat. Pas parce qu'on en veut aux gens âgés, parce qu'avec l'âge, on le sait, physiologiquement, intellectuellement, les capacités diminuent. Et ça, c'est un fait simple qu'on doit accepter comme être humain. Mais aujourd'hui, le président Ouad ne peut pas dire qu'il s'accroche au pouvoir parce que c'est le seul qui peut faire du bien aux Sénégalais. Parce que c'est une autre chose aussi qui est très intéressante. Il s'intéresse plus à ce qu'il appelle son héritage qu'aux Sénégalais eux-mêmes et à leur désir d'avancer. Parce que ce n'est pas en gardant l'héritage. On n'a pas gardé l'héritage de Senghor. On a avancé par rapport à cet héritage. Et c'est d'autres qui l'ont fait, c'est Abdou Diouf.
Mais justement, en 2000, au Sénégal, Mamadou Diouf, il s'était agi certainement d'un tous contre Diouf. Aujourd'hui, on n'est pas loin d'un tous contre Ouad, des fils spirituels et solides alliés de l'actuel président de la République de Naguère étaient au rassemblement du mouvement du 23 juin. Entre une nouvelle alternance possible aujourd'hui et l'alternative, quels sont les moyens pour éviter une situation de chaos que tout le monde craint au Sénégal ?
Vous savez, j'ai toujours pensé, peut-être j'ai tort, mais je ne crois pas, qu'il n'y aura jamais cette situation de chaos. Parce qu'à cause de l'existence au Sénégal, de ce qu'on pourrait appeler des nœuds et de la capacité des Sénégalais à pouvoir négocier et à pouvoir constamment négocier des voies de sortie. Vous vous rappelez, après 88, on a trouvé des solutions. En 89, avec tout ce qui s'est passé, y compris la crise mauritanienne, il y a eu des solutions négociées au plus haut. Et il y a eu la population qui a tenté de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières de s'organiser. Aujourd'hui, c'est ça, c'est à quoi on assiste effectivement, c'est à une reprise de cette capacité des Sénégalais, des jeunes en particulier, du quartier à la nation, à essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels, en fait, aujourd'hui, ils font face. Donc, je n'ai pas peur. Il peut y avoir des violences, il peut y avoir des crises très compliquées, mais le chaos que prédit le président Ouad, ce chaos ne peut pas exister. Parce que, comme je disais, il y a cette capacité d'une part, il y a des institutions solides au Sénégal, l'armée par exemple. Mais, il y a aussi les institutions maraboutiques.
Mais justement, cette forte focalisation sur Wade et même sur son fils ne brouille-t-elle pas finalement le regard qu'on devrait porter sur d'autres potentiels acteurs de 2012 et sur, après tout, sur les enjeux de l'après 2012?
Vous vous rappelez, je pense que vous vous rappelez, moi depuis plusieurs années, c'est la même position que j'ai. Le fils du président, je prononce jamais son nom, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le fils du président, j'ai toujours dit que c'est une créature des journalistes sénégalais. Et le président Wade a sauté sur l'occasion. C'est ma position. Et j'ai toujours considéré que le fait qu'on ne puisse pas ouvrir un journal sans qu'on ait référence à lui a créé une situation dans laquelle cette personne qui n'a jamais participé à la vie politique du Sénégal s'est trouvé à constituer la référence la plus importante, pour des raisons qui sont très très difficiles à déterminer. Mais au fond, il a eu une épaisseur médiatique sans avoir payé un rond, parce qu'il y a cette espèce d'obsession du fils. C'était, ça veut dire qu'on ne doit pas parler de sa présence, de son effet et de ses actions. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que personne n'a essayé de faire autre chose, disons, par rapport à ce qui se passait. Personne n'a essayé, effectivement, de participer à la création de leaders politiques qui sont capables d'être. Mais ça aussi, c'est à la fois la faute à l'opposition, mais c'est aussi la faute au pouvoir en place. C'est qu'on a un champ politique qui est tellement personnalisé et on a un investissement sur le politique qui est tellement exagéré que c'est des flashs. On vit avec des flashs. On vit avec ce qu'un individu avait. On parle du fils du président. On parle de Farba Senghor. Mais on ne parle pas d'autre chose. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui, on parle plus de Farba Senghor que du président de l'Assemblée nationale qui est aussi PDS, Mamadou Sall. Et c'est ça le problème.
Et ce que vous dites aussi à l'endroit de l'opposition, c'est que malheureusement, cette situation fait qu'il n'y a pas de leader ou même de leadership qui émerge face à par exemple, Wade.
C'est aussi vrai, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'opposition n'a pas été capable, dans une certaine mesure, et peut-être avec ce mouvement, ça va arriver, à créer une dynamique qui permette, si vous voulez, une compétition pacifique de leadership. Vous voyez ce que je veux dire? Où des gens se préoccupent d'abord de leur mandat, se préoccupent non pas d'arrangements pour savoir qui va arriver où, qui va être quoi, mais se préoccupent de discuter et de discuter ouvertement, disons cordialement, pour que les Sénégalais eux-mêmes soient en position de trancher. Si vous regardez par exemple, je donne deux exemples, si vous regardez la manière dont la discussion a eu lieu au cours des assises et certaines positions par rapport aux assises et la manière dont, par exemple, Macky Sall se positionne par rapport aux assises et par rapport au type de régime, la manière dont Cheikh Tidiane Gadio se positionne. Ce dont on se rend compte, c'est que les gens sont tellement omnibulés par la bataille pour la présidence qu'il n'y a pas une dimension qui permette d'avoir une discussion politique ouverte où on se préoccupe de trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, oui. Mais pas, disons, des discussions dans la compétition entre partis politiques. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un leadership qui émerge et qui permette de faire, effectivement, si vous voulez, qui permette de faire la décision de qui. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a, par exemple, dans la discussion politique la plus importante, moi, aujourd'hui, je pense, par exemple, qu'il faut arrêter d'élire les présidents de la République au suffrage universel pour justement casser les prétentions qu'ils ont à tout diriger et faire en sorte qu'il y ait des pouvoirs très équilibrés.
Mais si vous le dites, vous allez inspirer d'autres, donner des idées à certains.
Mais c'est ça qu'il faut faire. Et il faut éviter, par exemple, quand vous écoutez, j'ai écouté l'ancien Premier ministre sénégalais Idrissa Seck dans l'émission que vous avez faite. J'ai été fasciné par une chose. Il est contre la dévolution monarchique du pouvoir, mais il n'est pas contre la succession. Ouais. Ou il ne le dit pas. Alors que ce sont ces choses-là qu'il faut aujourd'hui discuter pour pouvoir établir une armature constitutionnelle, un dispositif institutionnel qui permette effectivement d'avoir une démocratie apaisée, où il y a des élections sans problème, où il y a un contrôle de l'exécutif par le législatif, Je suis aussi pour la réduction. Vous savez, à l'indépendance, combien de députés on avait? On avait 80. La Fédération du Mali avait 80 députés. Il faut diminuer le nombre de députés. Il y a toutes ces choses-là. C'est ça la discussion qui est la plus importante. Ce n'est pas les querelles autour du président Ouad, autour de son fils, etc. Et donc, si vous étiez capable d'organiser cette discussion, la discussion autour du fils du président serait une discussion qui tournerait autour de problèmes de corruption et de problèmes de népotisme, pas de problèmes de succession.
Très rapidement, avant d'aborder d'autres sujets, Momodou Diouf, vous êtes donc pour l'élection du président de la République au suffrage indirect?
Absolument.
Que l'Assemblée nationale l'élise, par exemple?
Que l'Assemblée nationale, si on a un Sénat, mais différent du Sénat là, qui est un Sénat où il y a les porteurs de légitimité, ils sont choisis d'une certaine manière, les représentants des municipalités et des régions, c'est-à-dire des pouvoirs décentralisés. Oui, je suis pour ça. Et pour moi, c'est aujourd'hui la chose la plus importante qu'il faudrait discuter. Je suis aussi pour un système électoral, pour une gestion des élections, l'administration électorale, qui serait confiée à un tribunal régional, comme au Brésil. Je suis pour ça. Mais un tribunal régional, comme je dis, de l'Afrique de l'Ouest, qui organiserait les élections dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis pour ça.
En tout cas, répondant à la demande de l'opposition de limoger son ministre de l'Intérieur, le président, au cours du meeting, l'a limogé avant immédiatement de le rétablir dans ses fonctions.
Mais c'est ça qui démontre. Vous savez, quand on regarde... Bon, je suis un observateur, je lis énormément parce que c'est ça mon métier, disons, parce qu'il m'intéresse si j'écris sur le Sénégal. Vous savez, quand on regarde... La démarche politique du président Ouad, et c'est ça qui est dramatique. Et l'exemple que vous venez de donner en est un, c'est que, en fait, sa pratique politique repose sur des coups, comme un joueur de dés ou de dames, ou un joueur d'échecs. Je fais un coup gagnant, j'avance, je fais un coup perdant, comme je recule. Et si vous regardez les 15 réformes constitutionnelles qui ont abouti, parce que c'est la 16e réforme qui a échoué. C'est des coups. Donc, il va à son meeting, il fait le coup de limoger un homme pour le reprendre, parce que c'est un coup. Ça devient... La politique devient une performance chez lui. Et c'est vrai que c'est un très, très grand acteur politique. Ça, mais aujourd'hui, en fait, le jeu est arrivé à son terme, je pense, malheureusement.
Justement, vous êtes professeur à l'Université Columbia des États-Unis. Il y a une formule que vous connaissez très bien aux États-Unis qui est souvent prononcée par les présidents américains. Game is over. Est-ce que vous diriez ça aujourd'hui quand vous regardez un peu les rapports entre l'administration Obama et le président Ouad, puisque Obama a convié la semaine prochaine les présidents ivoiriens, nigériens et guinéens à une rencontre, mais Ouad n'a pas reçu son carton d'invitation. Comment on peut le comprendre?
Mais on peut le comprendre de manière très simple. Je veux dire, vous savez, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, les Américains ont un président qui au moins connaît l'Afrique. Et c'est ce qui se passe. Il connaît l'Afrique, il sait ce qui se passe et il sait sur lequel des Africains comptent. La deuxième chose, c'est que Obama a des conseillers, y compris des Sénégalais. Donc déjà, ils connaissent ce qui se passe. Donc ils ne vont pas mettre le président dans un coup perdant. C'est aussi simple que ça.
Et peut-être vous, Momodou Diouf, vous êtes son conseiller?
Je ne suis pas son conseiller, mais l'un des conseillers d'Obama, tout le monde le connaît. Le jeune Sénégalais qui est dans son cabinet, je veux dire. Oui. Et puis, il y a plein de Sénégalais qui sont en relation avec... Vous savez, c'est ça une diaspora. Ce que fait une diaspora dans un pays hôte, c'est de trouver effectivement des réseaux qui leur permettent d'avoir un impact sur la politique de leur pays de résidence, sur leur pays d'origine. Je vous dis ça, c'est les Ghanéens le font, les Sénégalais, les Nigériens, c'est tout le monde. Parce que dans la plupart des cas, ces gens de la diaspora sont aussi impliqués et ils parlent avec plein de gens, des collègues, s'ils ne sont même pas directement des collègues qui sont des conseillers du président, etc. Mais ce qui est clair, c'est que Obama ne veut pas de toute façon, ne manifeste pas un grand intérêt à non seulement recevoir le président Ouad, mais à lui reconnaître même une position, disons, importante dans l'espace politique.
Mais qu'est-ce que Obama reproche exactement au président Ouad?
Je pense que si vous avez suivi la polémique avec l'ambassadeur, avec l'ambassadrice américaine, vous voyez très nettement ce qui se passe. C'est que Obama avait déjà fait son discours au Ghana pour dire voilà en fait le cadre dans lequel moi je vais intervenir en Afrique. Et dans une certaine mesure, il n'est pas beaucoup intervenu en Afrique, ça il faut le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Sénégal était déjà en fait un allié privilégié des États-Unis. Et sur certaines choses, Obama, disons l'administration Obama a des réserves. Aussi bien, on a vu WikiLeaks a sorti ce que les échanges à l'ambassade des États-Unis avec le secrétaire d'État sur en fait les problèmes de corruption et de népotisme. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans ces trucs qui ont été publiés. Donc, qu'on le veuille ou non, on est obligé de dire que le président Ouad, pour de multiples raisons, n'a pas la cote avec Obama. Et on se rend compte aussi de cela, des efforts qu'il fait pour avoir la cote. Parce que quelque part, quand il a trahi son vieil ami Kadhafi, qu'il a soutenu depuis 1974, il l'a fait avec le profond désir d'avoir plus de soutien de Sarkozy et des États-Unis.
Mais justement, c'est un peu l'effet contraire qu'on est en train de voir. Malgré son voyage à Benghazi, disant à Kadhafi de quitter, la France, le plus officiellement du monde, l'a dit par la voix de son ministre des Affaires étrangères, appliquez-vous la leçon que vous avez donnée à Kadhafi. Il y a aussi quelqu'un qui est de la diplomatie officieuse, Robert Bourgi, qui a fait une sortie contre Karim Ouad le fils et contre aussi le président Ouad en disant qu'il ne doit pas se représenter. C'est assez paradoxal, non?
Non, parce que les gens mélangent énormément de choses, surtout à propos de la France. Vous savez, la France est devenue, si vous voulez, le bouc émissaire le plus facile chez les Africains. Gbagbo peut donner tous les intérêts ivoiriens à des entreprises françaises et accuser la France de néocolonialisme. Parce que c'est facile. C'est du patriotisme de bas étage, si vous voulez. Il y a des critiques solides à faire contre la France. Ça, c'est vrai. Mais ces critiques solides, elles reposent sur nous, ce que nous voulons. Parce qu'après tout, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire. C'est pas la France qui décide à notre place. Mais la France a des intérêts, d'une part. Donc aujourd'hui, il y a des positions que la France ne peut pas prendre. C'est-à-dire que la France de papa, là, où en fait on est l'ami de tel, donc on le soutient. Ça c'est fini.
Oui, mais en même temps, Momodou Diouf, les déclarations de Robert Bourgi disant que Karim l'a appelé pour une éventuelle intervention de l'armée française lors des émeutes de l'électricité du 27 juin, est-ce que cela ne veut pas dire que cette fameuse France-Afrique est toujours là, elle est loin d'être morte?
La France-Afrique, c'est ce que je dis. La France-Afrique n'est pas morte, mais la France-Afrique n'a pas la force qu'on lui prête. Je ne sais pas si vous avez entendu le ministre français dire si c'est vrai, Karim Ouad doit comprendre que ça c'est fini. Et vous savez, il a appelé Robert Bouchy. Vous savez, dans le vieux temps de la vraie France-Afrique, quand Bongo a voulu que Jean-Marie Bockel soit viré du truc
du ministère de la coopération,
du gouvernement, il n'a pas appelé Bougie, il a appelé Guéant. C'est ça la différence. C'est ça qui montre que avant on appelait Focard, qui était le conseiller du président. Maintenant c'est fini. Je vous dis, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, il y a pas de nostalgique dans les deux cas. Mais aujourd'hui, non seulement cela, mais c'est qu'il y a une autre contrainte dans laquelle la France vit aujourd'hui. Et les Africains doivent se rendre compte de ça et en profiter. C'est que la France fait partie de l'Union européenne et l'Union européenne a sa stratégie propre. Si vous vous demandez, la première réaction contre Ouad et la dévolution, c'est la réaction de l'Union européenne, si vous vous rappelez bien, avant la France.
Oui, tout à fait.
Ce qui montre que la France ne dicte pas sa position à l'Union européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, Africains, aujourd'hui, c'est ce jeu-là qu'on doit jouer pour tirer profit de cette nouvelle situation. Et la France est prise aussi dans un monde globalisé où la France serait attaquée si elle prend des positions qui ne sont pas des positions conformes à la logique des droits de l'homme.
Tout à fait. Alors, Momodou Diouf, on va très rapidement terminer cette émission. Mais pour revenir au concept de démocratie, de démocratisation, c'est un concept qui a l'air de marcher dans des pays comme le Ghana, anglophone, le Cap-Vert, lusophone, et pas forcément en Afrique francophone, Côte d'Ivoire, Niger, Guinée et peut-être d'autres pays. Est-ce que ceux qui soutiennent que le débat sur le processus de démocratisation, surtout dans l'espace francophone, nous est imposé par l'Occident, ont vraiment tort?
Ils ont absolument tort. Parce que pour deux raisons. La première chose, c'est que les gens ne se rendent pas compte, y compris chez les francophones, le débat sur la démocratisation en Afrique francophone. Et ça, Albert Bourgeois a écrit un très bon livre avec l'un de ses collègues pour le montrer. Ce n'est pas Mitterrand et le discours de la Gaulle qui ont entraîné le débat sur la démocratie en Afrique. Les Africains ont payé à la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90, ils se sont battus. Ils se sont battus et ont aussi discuté de la démocratisation et des institutions démocratiques. Donc c'est un processus endogène qui a rencontré un espace international beaucoup plus ouvert pour tout le monde, parce que c'était la fin de la guerre froide. Donc les Africains sont entrés dans un débat global de la fin de la guerre froide en tant qu'Africains avec le problème d'Africains. Et ils avaient commencé ce débat avant. C'est pour ça qu'ils ont pu rentrer. Donc le débat de la démocratisation en Afrique n'est qu'un élément d'une ouverture plus générale du monde à la fin de la guerre froide.
Et pourquoi donc, les choses semblent plus marcher dans l'espace anglophone, je prends l'exemple du Ghana, ou même lusophone, le Cap-Vert, des pays qui ont réussi plusieurs alternances?
Mais parce qu'en Afrique francophone, malheureusement, on n'a pas été capable de... Comme je disais tout à l'heure, entre 80 et 2000, les Sénégalais se sont battus jusqu'à ce que la grande question de l'administration des élections, de la liste électorale à la proclamation des résultats soit réglée. Et ça a été réglé. Mais malheureusement, on a eu effectivement un pouvoir qui a commencé à rogner progressivement sur ces choses. Et ce pouvoir a été capable de le faire parce que malheureusement, là aussi, il faut le dire, l'opposition a boycotté les élections législatives, ce qu'il ne faut jamais faire en Afrique. Sauf à boycotter pour que les élections n'aient pas lieu. Mais si vous boycottez les élections et ont lieu, ça veut dire que le pouvoir qui va être élu va rogner sur l'ensemble. Mais ce qui est aussi positif, y compris dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que le souffle démocratique est là. Si vous vous rappelez bien, Gbagbo a différé les élections pendant 5 ans. Et pendant 10 ans, même plus, les gens ont dit Ouattara ne peut pas se présenter parce que c'est un étranger. Donc, il y a eu toute une campagne électorale d'au moins une dizaine d'années pour ça. Il y a eu des violences énormes. Mais quand les conditions d'une élection ont été réunies, on a demandé aux Ivoiriens d'aller voter. Non seulement ils sont allés voter, mais ils sont allés voter pour la personne qui était censée être l'étranger. Ça démontre que les Africains sont capables d'aller. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les enfermer dans des boxes ethniques. Ça le processus démocratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Sénégalais peuvent aller dans la rue pour dire à Ouad, votre projet de loi, on n'en veut pas. Et vos députés ne vont pas le voter.
Puisque vous parlez de boxe ethnique, de souffle démocratique, on va parler rapidement de la Guinée en 30 secondes. Alpha Condé a été élu après quelques mois, une attaque violente contre sa résidence privée. Qu'est-ce que vous pensez de ces derniers événements en Guinée?
Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand on fait de la démocratie, il faut bien la faire. Je veux dire que l'énorme problème de la Guinée, même s'il y a eu des élections, c'est qu'il y a eu un temps tellement énorme entre le premier et le deuxième tour. Il y a eu des incohérences tellement énormes qu'il y a des gens qui pensent que probablement ils n'ont pas vraiment perdu. Mais on leur a imposé la défaite. Mais la deuxième chose...
Par exemple, c'est Ludalène Diallo?
Probablement. Je veux dire que je ne sais pas s'il a jamais dit parce qu'il a accepté sa défaite. Mais il est très clair qu'il y a plein de gens qui se sont posé des questions entre l'écart qu'il y a eu au premier tour et ce qu'il y a eu au deuxième tour. Et le fait qu'entre le premier tour et le deuxième tour, il y ait autant de temps. Mais pire que cela, aujourd'hui le problème c'est aussi ça. Si on voulait vraiment approfondir la démocratie et réconcilier les Guinéens, après la victoire d'Alpha Condé, il aurait été important quand même, parce que c'est ça aussi une démocratie, c'est la capacité de gagner et de pouvoir continuer la conversation avec les vaincus, de les garder dans le jeu, comme je dis. Et là, en Guinée aujourd'hui, l'autre aspect, la deuxième étape qui aurait pu aider à une réconciliation, c'est l'organisation des élections législatives. Et il va falloir les organiser justement comme pour ouvrir un espace dans lequel l'opposition et le pouvoir sont capables de négocier. Et c'est ça aujourd'hui le problème. La démocratie, ce n'est pas seulement d'avoir des élections et de gagner, c'est d'avoir des élections, de gagner et de pacifier la société et de continuer le dialogue après la compétition.
Dernière question, on a applaudi le printemps arabe, la Tunisie, l'Égypte, mais sur le cas de la Libye, Mamadou Diouf, est-ce qu'on n'assiste pas un peu aux limites de ce printemps arabe, parce que se rendant compte que les choses ne sont pas aussi spontanées que ça?
Non, parce que le printemps arabe en Tunisie, en Égypte, en Libye et en Syrie, en fait, sont des printemps différents, parce qu'on est dans des écologies politiques différentes, et à écologie politique différente, saisons différentes. Donc, les ingrédients sont différents. Il n'y a pas eu, en fait, c'est pas le type de le printemps, entre guillemets, libyen, a très vite tourné, d'une part, en une confrontation armée, et deuxièmement, avec une intervention occidentale. Ça aussi, ça joue un rôle très, très important. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile aujourd'hui de gérer la situation. Alors que si vous regardez les printemps tunisiens et égyptiens, ce sont des printemps qui ont été menés par les peuples à l'intérieur. Et c'est surtout par des manifestations pacifiques qui ont été violemment réprimées, mais ce sont les manifestants eux-mêmes qui ont imposé, en fait, l'issue à la crise. La Libye est un cas très, très différent. Parce que la Libye a du pétrole, parce que, en fait, aussi, l'opposition libyenne est devenue très vite une opposition armée, et parce que les Occidentaux, l'OTAN, sont en train d'intervenir aussi, ce qui change complètement la situation par rapport, disons, à la situation tunisienne et à la situation égyptienne.
Très bien. Merci, Mamadou Diouf. Vous êtes professeur d'histoire des universités, professeur à Columbia University aux États-Unis. Merci